Bonsoir à tous, de retour sur Canal Sud pour le magazine de ce soir et on va commencer tout de suite avec Christian Terrancle de Solidaires Finances Publiques, responsable syndical régional. Pourquoi ? Bah parce qu'on ce soir on va vous parler des impôts.
À payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge.
Mais vous n'aurez pas la liberté de penser
de droite
si tu ne veux pas payer d'impôts. Cache ton faux nom, cache tes rouleaux, cache tes claquettes dans ton bonnet, ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano.
Ah, quelle affaire, me voilà milliardaire. Enfin, je vais pouvoir m'offrir, c'est mon désir, tous les plaisirs.
Mais les bourgeois, comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons.
Faut vous dire, monsieur, chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On triche.
De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Ah, ça fait du bien d'entendre ça, on l'entendra bientôt dans les manifs qui vont bientôt suivre. Mais pour l'heure, on va parler des GFIP, TVA, CSG, CRDS, revenus, impôts, taxes, fraude fiscale, optimisation fiscale. Et on va en parler avec Christian Terrancle qui est là ce soir. On aurait aimé avoir plus de ses camarades, notamment de la CGT. Malheureusement, il ne pouvait pas venir ce soir. Il va être donc assumé seul la tâche de nous expliquer tout sur les impôts, nos impôts. Oh là 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 là. Mais on va commencer, Christian. Bonsoir à toi.
Bonsoir.
On va commencer par nous expliquer, avant de parler de toutes ces histoires de sigles, bah de ce qui se passe chez vous aux impôts, parce qu'il s'est passé des mouvements sociaux dernièrement, il y a eu des grèves, des manifs, etc. Donc toi, tu travailles à la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. Et donc, est-ce que tu peux, assez brièvement pour commencer, nous expliquer un peu ce qui se passe actuellement la DGFiP à Toulouse ?
À Toulouse et sur tout le territoire, déjà pour expliquer très rapidement, la Direction Générale des Finances Publiques est issue de la fusion de deux anciennes directions, Direction Générale des Impôts et Direction Générale de la Comptabilité Publique, qu'on appelait le Trésor Public. Donc ça fait quelques années que ces deux administrations ont été fusionnées, évidemment prétexte aussi à supprimer les emplois, j'y viendrai. Et donc voilà, ces deux administrations sont aujourd'hui ensemble, mais comme c'était le cas dans les deux administrations précédentes, on est un peu la vache à lait de l'emploi, j'ai envie de dire, pour les gouvernements qui se sont succédés. Donc c'est des milliers de suppressions d'emplois depuis des années, qui sont devenus à des stades totalement intolérables pour tous les services. Je pense qu'on y viendra. Mais donc, ça fait des années déjà qu'on se bat sur cette question de l'emploi. Il faut dire que deux raisons à cela. Hein. La première, c'est quand si on dit aux gens, aux citoyens, on va supprimer des profs, on va supprimer des instituteurs, ça les fait un peu râler en général. Si on leur dit, on va supprimer les emplois des agents des finances...
Ah, là, c'est pas pareil. Ouais.
Voilà, en général, on a peu d'écho, même si après ils ont besoin de nous. Donc ça c'est assez majeur. C'est depuis très très longtemps qu'on est la source de suppression d'emplois par milliers dans le ministère. Donc c'est aussi valable évidemment en Haute-Garonne. Un chiffre, hein, les 6 dernières années depuis que cette direction est fusionnée, donc elle s'appelle des finances publiques, il y a 128 emplois en 6 ans qui ont été supprimés. à la direction régionale des finances publiques de Haute-Garonne. Sur la région Midi-Pyrénées, c'est 520 emplois qui ont été supprimés ces 6 dernières années.
Juste, le personnel total, c'est quoi actuellement pour avoir un ordre d'idée
Une centaine de milliers sur le territoire, hein, globalement, aux alentours de 2000 sur le territoire de Haute-Garonne.
Ah oui, donc ça fait presque un quart, quoi.
Oui, c'est absolument énorme. D'accord. C'est absolument énorme. Le volume d'emplois supprimés est absolument énorme. Donc, en rappelant qu'on ne fait pas, que des impôts, on s'occupe pas que de ça. Il y a tout, notamment dans la partie comptabilité publique, il y a tout ce qui est la gestion des comptes des collectivités locales, des hôpitaux, de nombreux organismes, l'eau, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des fonctions importantes aussi, même si aujourd'hui on est peut-être un peu plus là pour parler des impôts. Mais donc voilà, alors. Donc, ça fait des années qu'on se bagarre, qu'on est arrivé dans la Haute-Garonne où il y a une mobilisation relativement forte en général depuis plusieurs années, à un peu atténuer, mais tout simplement un peu atténuer, pas plus que ça. Mais donc, c'est des volumes extrêmement importants qui aujourd'hui ont des conséquences extrêmement fortes pour les services et pour les agents, mais pour les citoyens. Je prends un exemple.
Alors vas-y, concrètement, ça se passe.
Voilà, je voudrais essayer d'être concret pour que tout le monde comprenne bien. Aujourd'hui, les trésoreries, les petites trésoreries dans des petits villages, il y en a à Saint-Béa, il y en a un petit peu partout, elles ne peuvent plus assumer leurs tâches courantes. Donc, y compris les agents, demandent à ce qu'on ferme au public une demi-journée, une journée, deux jours par semaine pour arriver à assumer le reste de leurs tâches. Donc très concrètement, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Donc très concrètement, ces endroits-là ferment au public une demi-journée, une journée, deux jours par semaine, parce qu'ils peuvent, sinon ils ne peuvent pas travailler.
Mais c'est marrant, ça m'évoque ce qui se passe à la Poste, notamment moi d'où je viens en Aveyron, où en gros on a supprimé des emplois, donc on ne peut plus assumer les tâches, donc la Poste est plus ouverte, et comme elle est plus ouverte, les gens n'y vont plus, et comme ils n'y vont plus, on dit bah, on peut supprimer des postes. Est-ce que bingo. C'est les mêmes mécaniques
Bingo, c'est exactement le même bingo, malheureusement, c'est exactement la même mécanique qu'à la Poste, jusqu'à y compris que ça devient tellement intenable sur certains petits postes pour les agents, que ce soit pour le boulot, pour leur congé, pour quoi que ce soit, qu'ils en arrivent à eux-mêmes presque ne plus vouloir aller dans ces postes-là, et que donc cette logique de « j'y suis plus, donc je ferme » est en train de trouver toute sa signification, et pire encore, le pire est à venir, j'ai envie de dire.
Chouette.
Oui.
C'est-à-dire.
Le pire est à venir.
Mais vaut le savoir au moins.
Voilà, oui. Alors toujours en termes d'emploi et
on
tout.
On sera pas surpris.
On y reviendra sans doute, mais les annonces du gouvernement avec les milliards d'économies à faire sur les dépenses budgétaires. Alors nous, on se fait très peu d'illusions, même si on va se bagarrer, on se fait très peu d'illusions. On va encore une fois être la cible privilégiée. Et il y a actuellement dans notre administration une démarche stratégique qui se met en route, qui est ciblée sur où je vais trouver maintenant des emplois à supprimer parce qu'ils en sont à l'os, comme on le dit. Et s'ajoute à ça d'autres phénomènes. J'en prends un, très simple, que les gens vont bien comprendre parce qu'il y a eu une actualité là-dessus, la réforme des cantons. La réforme des cantons, vous savez ou vous savez pas, mais en tout cas, les cantons actuels vont être remodelés en fonction de la population, ce qui fait que, notamment dans le Comminges, il y aura beaucoup moins de cantons.
Donc dans le sud du département.
Voilà, tout le sud du département, il y aura beaucoup moins de cantons. Ils vont être concentrés beaucoup sur la Toulouse et sa banlieue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un endroit où il y avait 7 cantons, par exemple, et où il y avait 3 trésoreries, il ne va plus y avoir qu'un seul canton. Moi, aujourd'hui, je prends le pari que dans 2-3 ans, il n'y aura plus qu'une seule trésorerie.
Oui, c'est
donc, voilà, donc c'était pour expliquer la logique de la Poste, et qui est un peu la même. Avec, j'ajoute, le miracle de l'informatique derrière, c'est-à-dire qu'on nous dit « Ouais, mais on va faire des points dédiés avec un poste informatique dédié à la mairie ou ailleurs qui va être un point de contact pour venir avec nous. » Mais les points de contact, ça n'a jamais serré une main, vu une larme se verser et essayer de trouver une solution, quoi.
Oui, et puis on imagine bien la petite mamie qui est au RSA ou qui a le minimum vieillesse et qui vient, qui a un problème avec ses impôts parce qu'il y a eu justement une erreur ou quelque chose et qui est devant son poste informatique. J'imagine qu'elle tirera plutôt la gueule et elle ne pourra pas forcément venir à Toulouse, quoi.
Elle ne va pas pouvoir, elle ne saura pas se servir, et même s'il y a un point de contact derrière, notre administration travaille sur des sujets qui sont complexes, même parfois les gens, on a l'impression qu'ils ont une situation simple, ça n'est jamais simple l'impôt, résultat des courses, il faut vraiment un vrai contact pour arriver à débrouiller certaines situations, y compris humainement, avec la question en plus du déplacement, tout simplement. Là aussi, je prends un exemple. À compter de la fusion de nos deux administrations, on a reçu dans les trésoreries les agents pour les impôts, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, par exemple, on allait qu'à Saint-Gaudens. On ne pouvait pas aller à Bagnères-de-Luchon, à Saint-Béat, à Aspé ou ailleurs. Depuis qu'il y a eu la possibilité d'avoir un point de contact sur les déclarations de revenus notamment, mais la fréquentation a explosé, quoi. Exploser parce qu'on offre un service de beaucoup plus grande proximité pour les gens les plus faibles, ceux qui n'ont pas de voiture, etc.
C'est-à-dire qu'avant, en fait, on n'avait pas de contact direct au service des impôts. Ils en ont rajouté un au moment où ils suppriment des postes.
C'est le phénomène de la fusion. Avant, il y avait la Direction Générale des Impôts s'occuper des déclarations d'impôts et de leur contrôle. Mm-hmm. Les trésoreries, tout ça, s'occupaient d'encaisser l'argent seulement. Donc quand des gens avaient des questions sur leur déclaration de revenus ou éventuellement sur le contrôle qu'on avait pu opérer, ils devaient aller dans un centre des impôts. Il y en avait un, par exemple, dans le Comminges à Saint-Gaudens, point. Hein, c'était Muret, Saint-Gaudens, dans cette zone-là. À partir du moment où on a fusionné, que les trésoreries ont donc fait partie de la même administration qu'avec les impôts, les gens peuvent aller dans les trésoreries pour se renseigner. Résultat des courses, il y a eu une explosion de l'accueil, ce qui est logique, parce que les gens ont trouvé une proximité qu'on va en fait leur faire reperdre dans très peu de temps.
Bon, et une autre question que je voulais te poser. On parlait de la poste, on parlait d'autres services publics. Là-bas aussi, il y a un autre problème, c'est que les agents sont mis en concurrence les uns avec les autres. C'est-à-dire que d'un côté, on a des titulaires, de l'autre, on a des CDD, de l'autre, on a des CDI, d'autres. Est-ce qu'il y a la même dynamique avec des contrats précaires, notamment des contractuels, au service des finances publiques?
Alors, c'est encore assez minime.
Bon, ouf.
Ouais, mais je vais prendre un exemple là aussi extrêmement concret. 18 suppressions d'emplois l'année prochaine. Mm-hmm. Dans le même temps, là, sur les quelques mois qui viennent de passer, on a recruté une quinzaine d'emplois contractuels.
D'accord.
Sous forme, alors, attention, c'est des emplois handicapés, par exemple, ou des emplois qu'on appelle emplois pactes, qui sont donc consacrés à des jeunes qui vivent dans des quartiers difficiles et qui sont formés et qui intègrent, à qui on permet d'avoir une chance et qui intègrent la fonction publique de cette manière-là. Donc je ne dis pas que la démarche n'est pas bonne, mais il y a quand même un sacré paradoxe à avoir 15 créations de postes de cette nature et à côté 18 suppressions de postes de titulaires. Quoi.
Ça en fait toujours 3 de moins au final. Hein.
Voilà, au final ça en fait 3 de moins.
Et 15 non pérennes.
Alors, 15 non pérennes. En général, pour l'instant, dans nos administrations, on n'est pas du tout au stade de la poste avec les emplois précaires qu'il y a. C'est des gens qui sont là, qui ont un contrat à durée indéterminée, de droit public, etc., etc. Donc c'est quand même beaucoup plus sécurisé que ça ne l'est à la poste.
D'accord. On parle d'impôt depuis le début, mais justement, à quoi ça sert l'impôt? Je te propose de faire une petite pause musicale historique et puis on revient dans une minute. À quoi sert l'impôt?
Bien que j'aie une patente, une femme et des enfants, je n'aime pas qu'on plaisante des impôts, je le défends. D'enrichir notre patrie, nous devons être contents. Augmentez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Mon voisin me scandalise par un luxe injurieux. Tous les jours sous sa remise roulent des chars orgueilleux. J'entends dans son écurie hennir 3 chevaux fringants. Imposez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Ma femme est assez jolie, j'en suis même un peu jaloux, car elle aime à la folie des chats blancs et des chiens roux. De cette ménagerie, j'aborde les habitants. Imposez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Je ne bois que de l'eau claire, par goût je ne fume pas. Frappez le vin et la bière, n'épargnez point les tabacs. Seulement, l'épicerie souffre depuis bien longtemps. Dégrevez-la, je vous prie, messieurs les représentants.
Ouais, ce soir, c'est chanson de droite sur Canal Sud, parce qu'on a décidé d'être populiste et poujadiste, et c'est comme ça. Donc, Christian Terrancle, donc de Solidaires Finances Publiques de toute la région Midi-Pyrénées, responsable syndical donc à Sud Solidaires Finances. On était en train de parler de l'impôt, et effectivement, il y a une question qui nous taraude de tous. À quoi sert l'impôt? Pourquoi on paye tous des impôts? Et pourquoi on n'aime pas ça?
Alors, qu'on ne l'aime pas, je crois qu'on ne l'aime pas justement parce qu'on a totalement oublié ce à quoi il servait. Et c'est bien là le problème. On a beaucoup parlé dans la période récente du ras-le-bol fiscal, qui a deux caractéristiques. La première, c'est d'avoir été totalement instrumentalisé par une partie des lobbies qui ont voulu faire monter la sauce pour essayer d'y retrouver, eux, certains avantages. C'est très clair. Et à côté de ça, on ne peut pas le nier. Il y a un vrai problème économique et social qui se pose dans la période qui est extrêmement dure. On le voit, nous, dans les centres des finances publiques, avec l'accumulation de gens qui viennent demander des remises gracieuses, des délais de paiement, etc. etc. Donc ce ras-le-bol fiscal, il est pour une part instrumentalisé, pour une part le reflet de la situation économique et sociale. On ne peut pas le nier. Mais au final, on a effectivement perdu ce que nous, on appelle la légitimité de l'impôt. Moi, je prends un exemple, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On parle de contribution. Ça a un sens de dire « je contribue » à quelque chose. Aujourd'hui, on ne nous parle plus que de taxes, de prélèvements obligatoires, qui plus est, etc. etc.
De charges.
Voilà. La sémantique a du sens, c'est comme l'histoire du coût du travail qui évite...
On en parlera à la fin.
On en parlera à la fin. Donc voilà, pour en revenir au rôle de l'impôt, il a historiquement trois rôles. Et je vais essayer de prendre des exemples concrets. Le premier, c'est le financement de l'action publique. Chacun peut se dire « oui, je sais ce que c'est ». Moi, je vais prendre deux exemples. En matière d'éducation, est-ce que le matin, quand ils prennent le bus pour aller au lycée, les gamins qui le prennent savent que ce que ça représente pour la collectivité, c'est 10 000 euros par an? Donc les collectivités dépensent chaque année 10 000 euros par an environ pour un lycéen.
Donc on a... Par lycéen. Ah oui, d'accord.
C'est le... Voilà. Alors, le coût, du coup, j'ai pas envie de le dire. Pour la collectivité, un lycéen coûte aux alentours de 10 000 euros par an. Et donc là, on peut se poser une question simple. Hein. Où on ne les dépense pas, ces 10 000 euros-là, et seuls ceux qui ont les moyens se paieront l'école qui pourra leur permettre de progresser, c'est déjà bien assez inégalitaire de ce point de vue-là. Ou alors, collectivement, on dit qu'on va prendre en charge ça pour permettre d'amener au plus loin possible dans leurs études l'ensemble des enfants.
Mais c'est du socialisme, là.
Beaucoup, quasiment. Mais c'est la réalité de la vie en société, quoi. C'est comment on organise la vie en... Donc, financer l'action publique. Je vais prendre un autre exemple. Alors là, exemple qui s'adresse souvent à des gens de droite. Je vais...
Ils ne nous écoutent pas trop, malheureusement.
Pas trop, mais quand même. Comme ça permettra à ceux qui nous écoutent
de le dire à leur tonton au prochain repas de famille.
Vous prenez... Voilà, exactement. C'est justement l'exemple que j'allais prendre. Ça m'est arrivé dans ma famille. Un agriculteur qui a plein de petites routes tout autour, qui souvent paie un impôt très très faible. Faut bien le dire. Et je ne dis pas qu'ils n'ont pas une situation compliquée. Et des routes qui sont défoncées par quoi? Par les camions qui viennent les livrer et par les tracteurs. Or, ces routes-là, dans des petites communes comme ça, communes de 500 habitants, exemple vrai, 85% du budget de la commune passe dans la réfection des routes. Donc moi, j'ai dit à la personne...
85%?
Une commune connue, que je connais moi bien. Hein. Et donc, j'ai expliqué à la personne que j'avais en face de moi, de ma belle famille, je dis, il y a une solution, la collectivité prend en charge la route départementale qui va au bout. Et tout le reste, puisque c'est pour de l'entreprise finalement privée, eh ben vous vous débrouillez et vous achetez le goudron. Et la réponse a été la suivante. Ah, j'avais pas du tout vu ça sous cet angle-là. Eh ben oui, la collectivité prend en charge la petite route qui te permet d'assumer ton travail. Donc, y compris économiquement, l'impôt a un rôle. Donc, première fonction, le financement de l'action publique.
D'accord. Donc là, les routes, les écoles, les hôpitaux...
Voilà, enfin, tout ce qu'on connaît, mais voilà, en prenant deux exemples. Deuxième rôle... primordial, qui est la correction des inégalités sociales par ce qu'on appelle la redistribution. Là aussi, je voudrais prendre un exemple tiré d'une étude de l'UNICEF. Donc, ce n'est pas des grands gauchistes ou le syndicat, etc., qui l'a sorti, c'est étude de l'UNICEF. les enfants pauvres dans le monde. Je prends les États-Unis et la France. Avant redistribution sociale, il y a 26,7% d'enfants pauvres aux États-Unis, 24,6% en France. Après redistribution sociale, 22,4% d'enfants pauvres aux États-Unis, 7,9% en France.
Ah oui, donc ce que veut dire, c'est que la redistribution par l'impôt est beaucoup plus forte en France.
Parce que la différence, c'est qu'en France, on est à 44-45% environ de prélèvements obligatoires, alors qu'aux États-Unis, ils en sont à 25%. Oui, d'accord, mais ils ont 15% d'enfants pauvres qui restent en plus par rapport à la situation de base. Donc ça, c'est un vrai choix de redistribution, et on pourrait les multiplier aussi par tout ce qui est, en fait, c'est toute la redistribution sociale, les allocations, etc., etc., qui permettent de ramener à un niveau de vie qui est plus acceptable. Et la troisième fonction de l'impôt, c'est d'inciter à modifier les comportements. Alors il y a l'exemple notamment très connu des employés à domicile et celui de la fiscalité écologique. Alors c'est bien de vouloir inciter à modifier les comportements, mais malheureusement c'est dans cette troisième fonction de l'impôt que se retrouve la quasi-totalité des niches, de ce qu'on appelle les niches fiscales. Là aussi je vais être très concret, je prends un exemple. Calcul que nous avons fait. Même si ça a été modéré depuis. Les employés à domicile, il est très clair quand on regarde les courbes qu'à partir du moment où il y a eu la possibilité de déduire de ses impôts et d'avoir un crédit d'impôt sur l'emploi, les sommes conversées aux employés à domicile, le nombre d'employés à domicile qui sont rentrés dans le cadre du travail avec ses règles, ses déclarations et tout ça est très fort. Donc ça a servi. Mais le paradoxe, et nous avons fait le calcul, c'est qu'on pouvait se retrouver avec un couple, deux enfants, qui déclarait quelqu'un à temps plein, qui allait être non imposable, alors que leur employé allait, elle, être imposable à l'impôt sur le revenu. Parce que la réduction d'impôt était tellement forte qu'eux, ils allaient, par exemple, s'ils donnaient 12 000 euros par an, en déduisant, c'était un crédit d'impôt, donc ça venait en moins de leurs impôts, ils devenaient non imposables. Alors, et leur employé, elle, leur femme de ménage, on va le dire comme ça, elle avait des impôts à payer parce qu'elle avait touché 12 000 euros.
D'accord. Mais alors du coup, bon, là, tu nous as donné plein d'exemples hyper concrets. Donc on voit bien voilà, les trois utilités de l'impôt. Donc si je récapitule, il y a l'incitation à des comportements, avec les niches fiscales notamment, comme tu l'as décrit, la correction des inégalités et l'action publique, financement action publique.
Tout à fait.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, on a quand même effectivement une sacrée offensive contre l'impôt en général, alors qu'en fait, c'est pas l'impôt qui pose problème, si je comprends bien, c'est en fait comment on l'utilise.
Bah, oui, c'est comment on le fait fonctionner lui-même, c'est-à-dire...
Comment on l'organise,
pardon. Comment il est organisé, comment les choix que l'on fait sur un impôt plutôt que l'autre, ça c'est une première partie, je ne sais pas si on y reviendra, sinon j'explique vite fait là. Et il y a ensuite, effectivement, comment on l'utilise. Quand on se sert d'une partie extrêmement importante des ressources, ou qu'on se prive de ressources, ou que l'État se prive de ressources pour financer le CICE, donc Crédit Impôt Compétitivité Emploi, ou le Crédit Impôt Recherche, qui sont captés sans quasi-contrôle par des entreprises. Alors, le plus bel exemple, c'est Sanofi, qui prend des centaines de milliers d'euros de Crédit Impôt Recherche, parce qu'ils font effectivement de la recherche, alors ce serait trop compliqué de l'expliquer là, mais qui à côté de ça... multiplie les plans sociaux année après année et va fermer à Toulouse son labo, quoi. Donc c'est l'exemple typique. Donc là, ça veut dire que le choix politique fait sur l'impôt n'est pas le bon.
Et le gouvernement a même dit que, je cite, je crois que c'est que les crédits d'impôt pour la compétitivité seront exclus du champ du contrôle fiscal. C'est-à-dire le gouvernement lui-même choisit de ne pas contrôler l'utilisation de ces fonds.
C'est une honte totale. Quand on a vu arriver, nous, les notes, nous, agents des finances publiques, mais tout le monde faisait des bombes partout dans les couloirs.
En même temps, ça vous soulage du travail, non ?
Non, parce qu'on aurait préféré faire celui-là, justement. C'est celui qu'on aurait aimé faire et qu'on a un peu de mal à faire. Donc voilà, ça, c'est un réel problème. Alors, ils se sont rattrapés après en disant « le CICE ne doit pas être prétexte à contrôle fiscal ». C'est ça qu'on a voulu dire. Mais en clair, la consigne qui nous est passée, elle est bien ça. C'est si on contrôle l'entreprise Si l'entreprise était en contrôle à ce moment-là, ou si elle doit l'être demain, on va regarder le CICE, mais sinon, on ne le regarde pas. C'est-à-dire qu'on va donner des millions d'euros et qu'on ne va pas contrôler, d'abord qu'ils ont été utilisés correctement en fonction du choix politique qui a été fait, et si ça n'a pas été prétexte à d'autres, éventuellement même malversations. On ne va pas le regarder.
Mais alors, ce qui est extraordinaire, donc tu nous parles de ça, donc on donne des fonds sans les contrôler. Je trouvais même un papier, alors là ça concernait l'UNSA des finances, qui expliquait que l'austérité en Europe, les politiques de coupes budgétaires, favorisent la fraude fiscale. Et qu'il y aurait, ils estiment, 100 milliards d'euros de recettes publiques perdues chaque année dans la fraude fiscale illégale et l'évasion fiscale légale, mais qui reste inacceptable. 100 milliards, soit deux fois le montant des déficits publics des États de l'Union européenne. Enfin, après, ils donnent tout un tas de chiffres. Et en fait, quelque part, on se rend compte qu'on organise politiquement l'inefficacité de l'impôt. Comment on explique ça ? Pourquoi ?
Le pourquoi, je crois qu'on l'a ces derniers temps, avec des revirements de situation, avec le pacte de responsabilité, le fameux pacte de responsabilité, on a des réponses, c'est-à-dire qu'il y a des lobbying des entreprises, des lobbying économiques qui sont extrêmement puissants et qui poussent. Alors le gouvernement, après, il ne prend pas ses responsabilités, ou en tout cas il assume des responsabilités qu'il n'avait pas présentées de cette manière-là, ça c'est clair. Et donc, il ne prend pas les mesures qui pourraient permettre d'atténuer ça. En matière de fraude, il y a quelques mesurettes qui ont été prises. On ne peut pas dire le contraire, il y a eu quelques mesures, des changements législatifs et tout, mais c'est absolument... insignifiant.
Enfin, c'est toujours pas où Cahuzac avait ses comptes. Hein.
On ne sait pas tout, je pense, oui. Ça aussi, ça a été une mauvaise aventure pour nous. Mais alors, nous, la fraude fiscale, mon syndicat, qui fait une estimation extrêmement précise, c'est-à-dire, on n'est pas des hurluberlus, j'ai envie de te dire, sur ce coup-là. C'est-à-dire qu'on donne des chiffres de fraude fiscale à partir de tous les chiffres officiels de l'administration. On fait des règles de trois que je ne vais pas expliquer là. Nous, on dit entre 60 et 80 milliards en France. On est rejoint en cela par la communauté européenne le dit aujourd'hui, dit la même chose. Le Sénat, commission des finances du Sénat, dit la même chose. Donc ça veut dire qu'on n'était pas dans le faux, parce que pendant un moment on nous a dit « ouais, les zozos des syndicats, machin ». Maintenant, on ne dit plus ça, on dit « oui, ok, on est effectivement sur les mêmes chiffres ». Donc ce sont des chiffres qui sont absolument astronomiques. Et le pire, c'est qu'il y a des solutions internes à l'administration qui sont possibles, et des solutions législatives aussi. Encore faut-il avoir le courage de les prendre, quoi.
Mais je veux dire, techniquement, en gros, en mettant un peu plus d'agents, en y allant un peu plus franco, on va dire, donc en recrutant je ne sais pas combien d'agents, mais en recrutant un certain nombre, on peut aller chercher entre 60 et 80 milliards, c'est ça ?
C'est en tout cas, nous, ce qu'on estime une marge qu'on peut aller chercher.
Mais techniquement, là, demain, si on dit, bon, ben, maintenant, on y va, on va chercher... Enfin, imaginons qu'il y a un gouvernement qui a une volonté politique, imaginons. est-ce qu'on pourrait, là, techniquement, du jour au lendemain, aller les trouver, et puis, ben, schlop, quoi.
Ah, moi, je vais prendre un exemple concret du boulot. Hein. Tout est affaire de statistiques, tout ça. On part d'un raisonnement qui est un raisonnement de malade. C'est-à-dire que le ministre des Finances dit « je veux 50 000 contrôles fiscaux par an ». Voilà, il fixe un chiffre de contrôles fiscaux. Voilà. Résultat des courses, on le divise après par le nombre d'agents en charge du contrôle fiscal. Quand je dis contrôle fiscal, c'est pas celui des salariés, hein. c'est pas le contrôle de l'impôt sur le revenu, c'est du contrôle fiscal plus solide. Donc il dit ça, 50 000. On le divise par le nombre d'agents en charge de ça, ça leur fait 13 affaires par an. Donc voilà, dans toute la chaîne administrative qu'on connaît bien dans n'importe quelle boîte aussi, il y a le rendement et il faut qu'il y ait 13 affaires qui sortent. Donc qu'est-ce qui se passe ? Si quelqu'un trouve un système, et je prendrai un exemple précis, parce qu'il y a notamment une niche et qui est encore plus vraie en Haute-Garonne, celle de l'immobilier. S'il trouve quelque chose là-dessus, c'est complexe. Il doit y passer du temps. Il ne pourra jamais faire ses 13. Donc l'administration lui dit, vous arrêtez ça. Il nous faut 13. Et aujourd'hui, en Haute-Garonne, le recouvrement suite à contrôle fiscal, parce que c'est gentil de dire on en a fait 50 000 et ça a rapporté tant. C'est pas vrai. Les chiffres que donne le ministre sont faux. Il donne le chiffre théorique qui a été porté au bas d'une feuille de papier. Alors que le vrai chiffre, nous en Haute-Garonne, on n'est même pas à 40% de recouvrement des sommes qu'on a contrôlé.
J'avais cru même lire, je crois que c'était dans le Canard enchaîné, je me trompe peut-être, qu'il y avait même dans certaines situations, alors après tu me diras si c'est vrai ou faux, une sorte d'entente entre les services de l'État, de Bercy, et certaines personnes contrôlées, pour dire, bon voilà, vous, nous devez 80 millions, etc., nous on en veut 1 million. Et en gros, une sorte d'échange comme ça, où en gros, on va pas exiger la somme, mais on va négocier avec le fraudeur fiscal une partie pour avoir une partie des recettes, etc. Est-ce que c'est vrai cette histoire?
Alors,
ou pas du tout?
C'est vrai dans une certaine mesure, parce que c'est vrai, et c'est y compris prévu par les textes. On peut avoir des...
C'est légal en plus.
Voilà, alors pas dans les proportions comme ça. Alors moi, j'ai pas en tête l'article du Canard, hein, mais ce qui est vrai, c'est qu'à un moment, on peut... avoir un contrôle avec une somme qui en sort et avoir une transaction, c'est le terme exact, c'est celui-là, une transaction avec la personne contrôlée qui va finalement offrir une grande partie de sécurité à l'État qui est sûr qu'il va récupérer une somme, alors que s'il faisait payer toute la somme, soit il va mettre l'entreprise... en liquidation judiciaire.
Ça, ouais, en gros, il est même pas... si voilà. Il veut récupérer tout, il est même pas sûr de pouvoir le récupérer.
Voilà. Donc ça arrive, ça s'appelle la transaction, mais c'est pas dans. Enfin, mais ça, c'est légal. Alors c'est extrêmement minoritaire. Hein. Voilà. Mmh. Mais ça, il y a une. Après, moi, s'il y en a d'autres, objectivement, je pense à titre personnel qu'il doit y en avoir dans les couloirs de Bercy. Mais là, ils sont pas. C'est pas à Canal Sud qu'on va en parler. Je ne les connais pas. Je suis pas au courant, quoi.
On sera ravi de les recevoir.
Voilà. Mais j'imagine que dans les couloirs de Bercy, il y a d'énormes contrôles fiscaux qui se négocient. La meilleure preuve, c'est les comptes à l'étranger qui reviennent actuellement et dont glorifie le ministre. Voilà. Ça, c'est clairement une forme de transaction. C'est-à-dire, on dit, tu reviens. Et moi, je vais te faire payer moins d'indemnités de retard, je vais te faire payer moins de pénalités, etc. etc.
C'est une forme de transaction. Des chiffres de ceux qui sont revenus.
Voilà, et puis pour faire rentrer de l'argent aussi quand même. Quoi.
Bon, on fait une petite pause musicale, justement, parce qu'il y a l'impôt, et puis il y a la charité, et puis à Toulouse, on a les Malpolis. Petite pause musicale de 2 minutes.
Le truculent contribuable comme un samaritain dévot fond comme une glace minable devant les terribles photos du petit noir crevant dans le sable avec des mouches plein le museau ou du myopathe pitoyable dans sa chaise comme un escargot. Il se jette sur son portable pour promettre à Télémago de remettre une somme considérable par chèque avec plein de zéros. C'est un rite, ce geste affable, comme filer sa pièce au clodo pour conjurer le sort effroyable que cela ne soit jamais notre lot. Soyez bon, soyez charitable et soyez généreux, c'est beau. Le dévouement, c'est admirable et ça se déduit des impôts. Quand on a du blé plein ses étables, on prend vite des réflexes de veau. Faire l'aumône au bon misérable plutôt que de payer des impôts. Distribuer de jolis cartables et des stylos neufs aux marmots. Et traiter les profs d'incapables en laissant l'école prendre l'eau. Certes, il y a des choses critiquables comme quand l'État prend l'apéro. Avec les sous du contribuable, pourrait parfois lui payer un pot. Mais si vous ne trouvez pas équitable qu'on partage un peu le gâteau, faut pas venir pleurer à ma table et loucher sur mes pépitos. Je serai bon, je serai charitable et l'on pourra me prendre au mot. Quand l'armée sera insolvable, je paierai ses canons au bistrot. Je serai bon, je serai charitable et l'on pourra me prendre au mot. Quand l'armée sera insolvable, j'adopterai un petit char d'assaut.
De retour sur Canal Sud 92.2, canalsud.net, on est avec Christian Terrancle, responsable syndical régional de Solidaires Finances Publiques, et on est en train de parler des impôts, les terribles impôts. On parlait surtout avant de la fraude fiscale et de l'organisation volontaire de l'inefficacité, donc de la lutte contre la fraude fiscale. Il y a autre chose, moi, qui m'a surpris ces derniers temps, on en a beaucoup parlé, notamment avec la Bretagne, c'est cette fameuse histoire d'écotaxe, donc une taxe prétendument écologique, mais qui taxait en fait pas les autoroutes, donc déjà bon, et surtout une taxe qui était collectée par une entreprise privée. J'aimerais, Christian, que tu nous explicites un petit peu qu'est-ce que c'est que ce bordel.
Alors, au-delà de l'anecdote un peu assez malheureuse même de l'écotaxe, et sur laquelle on n'a pas, faut dire que ça n'a pas été très clair dans la période passée, de savoir comment elle existait, comment elle se montait et comment elle allait se mettre en place. J'ai pas envie de parler de l'écotaxe parce que j'ai pas envie d'en parler, mais plutôt du phénomène de recouvrement de l'impôt, quel qu'il soit, par les sociétés privées.
Allons-y, pas de souci.
Mais non, mais je pense qu'on va se comprendre très vite, parce que l'impôt qui rapporte le plus, c'est-à-dire la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, celle qu'on paye sur sa baguette de pain pour les uns, sur sa Rolls pour les autres. Non, mais c'est pour expliquer l'injustice. c'est bien les entreprises qui la collectent. Ce sont elles qui la collectent. Et au passage, l'impôt le plus fraudé, pour faire un flashback sur la fraude, l'impôt le plus fraudé, c'est la TVA, comme par hasard. Et
c'est le plus injuste aussi.
C'est le plus injuste. Parce qu'il est, c'est un impôt qui, bon voilà, on le sait, mais autant le répéter quand même, ça fait pas de mal. C'est un impôt proportionnel et qui touche tout le monde. Quel que soit son niveau de revenu, je reviens à l'exemple de la baguette de pain, on paye tous la même taxe sur cette fameuse baguette de pain.
Y compris ceux qui n'ont même pas la nationalité française, ils payent quand même leurs impôts.
Ils payent quand même leurs impôts en France, c'est pas le seul. Les prostituées aussi payent leurs impôts, oui. Voilà, enfin, toutes ces populations stigmatisées souvent payent effectivement leurs impôts. Et donc voilà, donc les entreprises sont des collecteurs d'impôts, j'imagine qu'on reparlera de la retenue à la source. C'est un des très très grands dangers de la retenue à la source, qui est de faire collecter un impôt, l'impôt sur le revenu, donc pour être très précis, qui aujourd'hui est encaissé et rentre à 98%, donc c'est quand même pas rien, de le faire encaisser demain par des entreprises. Je doute pas de leur honnêteté, mais on sait qu'aujourd'hui, encore une fois, la TVA, c'est l'impôt le plus fraudé, et particulièrement au niveau européen, sans qu'on fasse grand-chose pour que ça s'arrête. Puisque la TVA intracommunautaire est l'impôt le plus fraudé, la Commission européenne le sait, tout le monde le sait, mais on ne prend pas les mesures qui permettraient d'arrêter ça.
Mais après, on a toujours le couplet, je vais faire l'avocat de la droite, il en faut bien pour une fois dans cette radio, ces petites entreprises assommées par les charges et par les impôts, et qui, une fois à la fin du mois, mais j'ai entendu même dans mon entourage, hein, des gens qui disent, oui, mais moi, à la fin du mois, j'ai taxé, il y a 80-90% de ce que je gagne qui est taxé, une fois par l'entreprise, une fois chez moi et tout, j'ai plus rien. Et c'est un discours qui se répand, qui se développe en ce moment un peu partout, et qui du coup légitime ceux qui fraudent aussi la TVA là-dessus.
Nous là-dessus, sur les petites entreprises, on essaye, y compris de plus en plus maintenant, d'avoir un discours vers elles pour leur dire « Attention, la justice fiscale, c'est aussi vrai pour vous. » Parce qu'il y a une réalité en France, et pas seulement, c'est que les petites entreprises qui ne bougent pas, elles sont comme les contribuables que nous sommes pour la baguette de pain, ce sont ce qu'on appelle des contribuables captifs. C'est-à-dire que là, ceux-là, on sait où les trouver, ils y sont, ils existent. Et donc, ces petites entreprises payent le maximum d'impôts sur les sociétés, notamment quand elles en ont un à payer. Alors que les grandes multinationales, elles s'échappent tranquillement avec un mécanisme que je peux expliquer, qui est pas très compliqué, qui est celui des prix de transfert notamment, pour aller dans les pays européens, par exemple, qui taxent le moins l'impôt sur les sociétés. Elles font leurs bénéfices là, et elles arrivent, on le sait, les entreprises du CAC 40, elles sont aux alentours de 8% d'imposition sur les sociétés, quand une PME ici va être à 33%. Un peu moins, parce qu'au final, ça fait un peu moins en moyenne que ça. Mais on va dire aux alentours de 30%. Donc nous, ce qu'on leur dit, Mais c'est quand nous, on a un discours pour dire la justice fiscale, ça doit être une réalité, la redistribution des richesses aussi, c'est aussi valable pour vous dans votre petite entreprise. Et on comprend ce que vous dites, mais vous aussi, ouvrez les yeux. En gros, faites gaffe au MEDEF, quoi. Parce qu'au MEDEF, ils vous racontent des conneries quand vous êtes en réunion, ils vous envoient au charbon, mais en fait, eux, dans les grosses entreprises, ils encaissent. Et c'est vous qui payez, effectivement, y compris dans les sociétés, il y a de l'injustice fiscale. Je crois que c'est important de leur faire passer ce message-là à eux aussi, pour qu'ils, même s'ils ne sont pas très de gauche, effectivement, pour qu'ils comprennent qu'eux aussi se font avoir, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi.
Et du coup, pour retourner au sujet qu'on avait avant, oui. On parlait donc du fait que la TVA est collectée par les entreprises. Et en fait, je reviens au sujet de l'écotaxe parce que ça m'a paru extraordinaire qu'en fait cet impôt était collecté par une société privée, mais même italienne, quoi. Donc il y a d'autres impôts comme ça qui sont collectés, voilà, on sous-traite, limite bientôt on va faire un appel d'offres pour l'entreprise qui sera la mieux à même de collecter l'impôt. C'est quoi ce cirque?
J'ai pas en tête, peut-être que ça existe honnêtement, je sais pas, mais j'ai pas en tête un exemple aussi flagrant que l'écotaxe. Ceci dit, ça répond à un principe, c'est un principe de concession, et y compris de quasiment ce qu'on peut appeler un partenariat public-privé.
Oui, c'est clairement ça.
C'est clairement ça. Donc moi, j'ai pas je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tête, je n'ai pas d'exemple comme celui de l'écotaxe, y compris avec une entreprise ailleurs. Mais les autoroutes, pour partie, voilà, quoi, concession, même si c'est pas exactement la même chose, parce qu'il y a des contreparties d'aménagement, etc., mais ils collectent, y compris, une partie de taxes. La taxe sur le pétrole, elle est collectée, c'est pas nous qui la collectons au départ, hein, elle est bien collectée par les sociétés, tout ça. Mais l'écotaxe, c'est vrai que c'est un peu particulier, quoi.
Bon, très bien.
Enfin, il n'y est pas encore. Hein,
du coup, on va arrêter peut-être les sujets techniques et on va peut-être passer au sujet politique. Mais avant, je ne résiste pas à une nouvelle pause musicale. Oui, ça fait déjà un quart d'heure qu'on parle depuis la dernière. Une pause musicale avec Sim. Ouais, Sim, carrément. Là, on va taper clairement à droite. Et c'est Canal Sud, 92.2, canalsud.net. Vous êtes dans le magazine. Et on passe de la musique de droite.
Moi j'en ai marre des impôts, ça rend dingo les impôts, car les impôts c'est drôlement tarte, et pourtant c'est pas du gâteau. 20% et 10% et 5% plus un coup de sang, ainsi se font les typhons sur les gains acquis. Je m'embrouille, je bredouille, je patouille et je gratouille, quand j'ai trouvé mes totos, il est plus tard que tôt. Les impôts, ne me parlez plus des impôts, moi j'en ai marre des impôts, ça rend dingo les impôts, car les impôts c'est comme la guerre. On a vraiment, oui vraiment du mal à s'y faire. Les impôts, ne me parlez plus des impôts, moi j'en ai marre des impôts, ça rend dingo les impôts, car les impôts c'est drôlement tarte, et pourtant c'est pas du gâteau. Comme j'avais tellement maigri, mon petit inspecteur m'a dit: je vois que vous n'avez plus que l'impôt sur les os. Il me pèle, me rappelle, me querelle, me harcèle. Je lui donne tout mon pognon et je ressors en caleçon. Des impôts, ne me parlez plus des impôts, moi j'en ai marre des impôts, ça rend dingo les impôts, car les impôts c'est drôlement tarte, et pourtant c'est pas du gâteau. Sur une île désertique en plein milieu du Pacifique, je suis venu pour vivre de mes revenus. Il y avait déjà l'inspecteur quand il m'a vu, il a pris peur et m'a grillé de son radeau avant de se foutre à l'eau. Des impôts, ne me parlez plus des impôts, moi j'en ai marre des impôts, ça rend dingo les impôts, car les impôts c'est comme la guerre. On a vraiment, oui vraiment du mal à s'y faire. Les impôts, ne me parlez plus des impôts, moi j'en ai marre des impôts. Yeah.
de retour sur Canal Sud 92.2. On vous promet, ça, on passera pas tous les mardis des chansons comme ça, mais c'était une petite perle. Voilà, c'était Sim les impôts. Comme quoi, on a de la grande chanson française, bien réac aussi, dans les années 80. Allez, on va continuer de manière un peu plus sérieuse avec Christian Terrancle, donc de Solidaires Finances Publiques de la région Midi-Pyrénées. Et puis donc, après avoir détaillé la technique, l'éco-taxe, etc., etc., moi j'ai envie de te demander, Christian, comme le camarade Vladimir Ilitch Ulyanov le disait, que faire face à cette situation? Que faire?
Ça dépend de quoi on parle. Il y a deux choses à faire. Se bagarrer, ça, ça en est une, je pense que j'y reviendrai. Et se bagarrer sur, pour essayer de faire passer un certain nombre de principes déjà. D'expliquer, moi j'ai envie de dire que la première bagarre qu'on essaye au demeurant de passer en Haute-Garonne notamment, en intersyndicale, particulièrement avec Solidaires, FSU, la CGT, on travaille pour avoir des expressions publiques et des actions sur ce thème-là.
Et j'ai l'impression que vous êtes assez unis. C'est une intersyndicale qui est assez cohérente, j'ai l'impression.
Ces trois-là, oui.
Oui, oui, non, les trois.
C'est compliqué, mais on se retrouve de temps en temps. Mais ces trois-là, on essaye d'y travailler. Là, on est en train de continuer et d'approfondir ce travail-là, mais on l'a déjà fait ensemble. Mais la première des choses, le premier des problèmes qu'on a, c'est d'essayer de faire entendre aux gens plus ou moins ce qu'est l'impôt, je ne vais pas y revenir, ce à quoi il sert. Et comment il pourrait être plus juste? Parce que ce qu'on constate, je veux quand même revenir fortement là-dessus, c'est que ce gouvernement, comme les précédents, suivent la tendance qui a été portée et qui est portée par l'Europe, à savoir d'arriver plus ou moins à une sorte d'harmonisation qu'on pourrait saluer de nos voeux, mais qui n'est pas celle qu'on veut du tout. C'est-à-dire une harmonisation qui tend à baisser les impôts des sociétés, qui tend à augmenter les impôts proportionnels comme la TVA, et qui donc tend vers cette injustice-là. Très clairement, c'est la tendance, elle est très clairement celle-là, on l'a vu avec l'augmentation de la TVA qui a été décidée. Donc il faut qu'on arrive quoi faire, c'est d'abord expliquer. Je peux donner un exemple?
Oh ben oui, bien sûr.
Je vais donner
quand c'est concret, c'est quand même toujours mieux.
Mais je vais donner un exemple concret d'un truc de fou qui m'est vraiment arrivé. Quand le gouvernement avait promis d'instaurer une tranche de l'impôt sur le revenu à 75%. Il y a des gens qui m'ont dit, mais tu te rends compte quand même, 75%, ça fait beaucoup. Mais on n'a jamais pris 75% à quelqu'un. Donc il faut qu'on arrive à expliquer aux gens, je sais que c'est un peu technique, mais je le dis quand même, que ce qu'on taxerait à 75% si ils avaient voulu le faire vraiment, c'est par exemple les revenus entre 100 000 et 120 000 euros, et que donc on taxe seulement 20 000 à 75%, pas le reste. C'est compliqué, mais c'est des idées qu'il faut sortir de la tête des gens, parce que les gens se sont mis dans la tête qu'effectivement les impôts devenaient confiscatoires, y compris pour les riches. Je vais prendre un deuxième exemple. Le patrimoine auquel tout le monde tient tant, ça date de Sarkozy, ça, les droits de succession. Sarkozy dit « Ah, faut arrêter la taxation des droits de succession, c'est une honte et tout ça ». Faut expliquer aux gens que 75% des Français n'avaient aucune taxe à payer sur leurs droits de succession. Zéro. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste la maison de leurs parents ou un petit appartement, un truc comme ça. Donc ceux à qui ça a profité, c'est ceux qui sont pleins de fric. Et l'impôt, c'est terrible pour ça, parce qu'à partir d'un certain nombre de messages très courts, on le voit avec le ras-le-bol fiscal, on arrive à faire rentrer dans la tête des gens, un, que ça ne sert à rien, deux, que c'est de toute façon trop lourd tout le temps. Donc premier message qu'on doit faire passer, c'est d'essayer d'expliquer. Et c'est compliqué à faire, mais il faut qu'on fasse passer ce message.
Mais surtout que j'ai l'impression que, comme l'on le voyait là, avec, on n'est pas abordé le sujet, mais quand on nous parle de la fusion de la CSG et la CRDS, c'est Kafka, quoi. C'est incompréhensible. Même quand on se plonge dedans, c'est complètement hallucinant. Et on a l'impression, par exemple, avec ces histoires dont tu parlais, des tranches, donc on ne taxe pas un pourcentage des revenus, non, on prend des tranches, on taxe un taux sur une telle tranche, puis un taux sur... C'est la fabrique de la complexité et du fait que, du coup, c'est complètement incompréhensible. Donc c'est aussi ça, c'est qu'en fait, ça a été fabriqué, cette
fabrique-là des tranches, pour moi, c'est la plus juste, au passage, hein, parce que c'est ce qu'on appelle la progressivité.
D'accord.
Voilà. Hein, donc, mais je comprends que ce soit complexe, mais c'est ce qu'il y a de plus juste parce que c'est progressif. Et plus il y a de tranches dans un impôt sur le revenu, plus il est juste parce qu'on taxe au plus près.
En gros, c'est ce qui permet de taxer, voilà, vraiment d'être le plus juste possible.
Voilà, tout à fait.
Mais après, c'est vrai que c'est un principe.
Mais au-delà de ça,
quoi.
Au-delà de ça, ce qui est clair, c'est qu'on a une fiscalité qui est, mais c'est infernal. Moi, je suis rentré aux impôts à l'époque, il y a 30 ans. Je ne peux pas le montrer puisqu'on n'est pas à l'antenne, mais on est à l'antenne, mais on s'entend, on ne se voit pas. Le bouquin qu'on avait, nous, dans les services, il ne faisait pas un centimètre d'épaisseur. Il ne faisait pas un centimètre. Aujourd'hui, alors qu'on nous parle de simplification depuis 30 ans, il en fait 2,5 ou 3. C'est ahurissant. Les tonnes de lois qui s'empilent, et particulièrement ce qu'on appelle les niches fiscales, justement. Parce que cette complexité-là, pour le compte, elle est bien clairement décidée. Le problème, au-delà du fric qui ne rentre pas dans les caisses de l'État et qui ne sert pas à la redistribution, etc., c'est qu'en général, ça ne profite qu'à ceux qui ont le plus d'argent. Et que cette complexité-là est fabriquée pour eux. Parce que tous les matins à Bercy, il y a un lobby qui se pointe dans l'antichambre du ministre pour lui dire qu'il va fermer sa boîte ou va fermer son secteur, etc., etc., et que donc il faut qu'il fasse quelque chose pour lui.
Mais c'est pas neuf, ça. Enfin, c'est pas la lutte des classes.
C'est pas neuf, non. Effectivement.
Enfin, c'est à peu près ça. C'est riches qui veulent rester riches, bon, il n'y a rien de...
Le problème, c'est qu'ils ne le restent pas, ils le sont de plus en plus. Donc voilà, alors la complexité, c'est clair que c'est un axe de réforme, un vrai axe de réforme, serait... qu'il y ait moins de complexité. Et là aussi, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui doivent nous entendre, nous écouter. Mais là aussi, je dis pas seulement pour les particuliers, pour les entreprises aussi. Parce qu'aujourd'hui, le petit artisan qui se tape 10 ou 12 heures de boulot par jour, qui doit faire ses devis en rentrant le soir, il n'est absolument pas armé pour s'occuper d'une paye et s'occuper en plus de sa fiscalité. Il ne sait pas le faire. Et il n'a pas le temps et il n'a pas les compétences. Et nous, on ne l'aide pas ou pas assez. Donc il faut simplifier. Vraiment, pour tout le monde, c'est un axe fort, la simplification, c'est clair.
Et les grands principes qu'on pourrait mettre en place si on faisait une révolution fiscale, le mot a été lancé à gauche il y a quelques temps, ce serait quoi pour vous dans cet intersyndical Sud-CGT-FSU, qu'est-ce que ce serait les grands axes?
Il y en a deux qui sont clairs. Alors d'abord, on a un vrai problème qui est un problème européen, hein, clairement. C'est-à-dire qu'il y a une partie des choses qu'on ne peut pas faire si on ne remet pas en cause le modèle européen tel qu'il est aujourd'hui. Je parlais pour les entreprises, les grands groupes, par exemple, si on n'arrive pas, nous on appelle ça le serpent fiscal européen. C'est-à-dire arriver à progressivement à faire une harmonisation, mais une harmonisation juste des impôts. Mais il y a au moins deux choses sur lesquels c'est très clair, c'est de réduire le poids des impôts indirects, comme celui de la TVA, et c'est exactement l'inverse de ce qui se passe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une campagne actuellement avec plusieurs organisations, syndicats, associations et tout ça, qui s'appelle « Stop à la hausse de la TVA », avec des pétitions à signer et tout. Si vous tapez ça sur Internet, vous le trouverez. Pour dire « c'est pas vrai, il faut arrêter là ». Donc, impôts, moins de poids pour les impôts indirects, très clairement. Et y compris, dans cet impôt-là, on peut faire des choix politiques. Je prends un exemple, là, on a eu une augmentation de taux de la TVA. Mais pourquoi on n'a pas créé un taux de TVA à zéro pour les produits de première nécessité? Le pain, le lait, le beurre, des produits. Et là, ce serait une vraie mesure sociale juste pour les plus démunis qui, eux, ont un poids de la TVA énorme dans leurs revenus. Donc, moins d'impôts indirects. Donc, plus d'impôts directs progressifs, comme l'impôt sur le revenu, je le disais tout à l'heure avec l'histoire des tranches, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers, parce que le principe, c'est le même de la progressivité. Voilà, c'est deux axes très forts. Et ensuite, en matière de contrôle notamment, c'est qu'on ait des moyens en personnel, des moyens matériels et des moyens législatifs pour que dans notre administration, notamment, on puisse exercer des contrôles. Or, à l'inverse, qu'est-ce qui se passe ? Et ce n'est pas un hasard. Là aussi, les lobbies sont dans l'antichambre du ministre. Les administrations qui trinquent, c'est qui ? La douane, le plus. La douane, la concurrence, la consommation, la répression des fraudes et les finances publiques. Bizarrement, ce sont trois entreprises de contrôle, et notamment de contrôle des entreprises.
C'est les trois domaines des fonctionnaires qui sont les plus touchés.
La concurrence, la consommation, ils ont été explosés en plusieurs directions, et depuis qu'ils ont été explosés dans plusieurs directions, clairement, ils ne peuvent pas faire correctement leur boulot. La douane, ils ont, comme nous, aux finances publiques, une démarche stratégique qui va se mettre en route là, avec des fusions de services, des régionalisations, des départementalisations, des suppressions d'emplois encore un peu plus, etc., etc. Et comme par hasard, ce sont trois administrations de contrôle.
Voilà. Et il n'y a pas moyen d'organiser justement les choses tous ensemble, grève générale.
Alors on sait bien que c'est compliqué, on y travaille. Pour rester dans le champ finance, nous on a une action nationale en intersyndicale à 4 qui est en cours, qui démarre. Hein. Localement, par exemple, on va faire ce qu'on appelle des jeudis des finances publiques. Par exemple, la semaine prochaine, on sera à Saint-Gaudens. On cible Saint-Gaudens par rapport à tout ce que j'ai pu dire sur les cantons, tout ça. Donc on va faire une conférence de presse, rencontrer les élus, etc. Et on va faire ça tous les jeudis pour nous amener jusqu'au 20 mars, qui est une journée de grève nationale et qui est en même temps une journée de grève nationale des douaniers. Et sur Toulouse, on va organiser une manifestation régionale le 20 mars à Toulouse, douane, je l'espère, et finances publiques. Ça, c'est pour le secteur dans lequel je suis. Au-delà, il y a le 6 février auquel Solidaire appelle avec la CGT, la FSU.
Une manifestation interprofessionnelle
qui porte sur les mêmes thèmes.
Voilà, pacte de responsabilité, voilà. TVA, etc.
Qui porte beaucoup sur les mêmes thèmes. Je le disais, on est en train de faire un travail revendicatif, de cahier revendicatif avec les trois mêmes organisations pour le porter devant le public sur ces mêmes thèmes-là. Voilà, quoi. Et puis après, il y a d'autres actions qui, je pense, en découleront. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'en intersyndical, on arrive à faire du boulot là-dessus. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait aussi profondément que ce qu'on est en train de faire.
J'avais envie, pour terminer, il nous reste quelques petites minutes, de poser la question un peu plus loin que la simple réforme. Parce que tu sais bien que dans cette radio, nous, notre objectif, c'est l'abolition de l'État. Et donc, je me demandais quel était l'avenir, comment on pourrait concevoir le collecte de l'impôt. Le jour où on aura aboli l'État, où on se sera passé de l'État, où on sera dans un État anarchiste, libertaire, comment on pourra faire à ce moment-là ? Qu'est-ce que sera l'impôt ?
Je ne peux pas exactement suivre totalement, tu m'en pardonneras sur la démarche, qui plus est en étant un agent de l'État.
C'est pour ça que je pose la question.
Mais, non, mais objectivement, même sans rire, objectivement, à un moment donné... faut arriver à prendre aux riches pour le donner aux pauvres, quoi. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, quoi. Voilà, je pense que c'est ça la question.
D'accord, bon bah très bien. Et ben c'est sur cette note qu'on va terminer cette émission. On n'a pas passé toute la prog musicale, mais vous la retrouvez sur le site internet. Merci Christian Terrancle, donc responsable syndical régional de Solidaire Finances Publiques. Je crois qu'on a un peu plus clair les idées sur pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est l'impôt. On n'hésitera pas à suivre ce dossier sur Canal Sud, on relaiera les manifestations. Un dernier mot avant de rendre l'antenne ?
Rendez-vous le 6 février, pour nous le 20 mars.
Allez, super. Merci Christian et merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouveau magazine. On se retrouve demain à midi pour le magazine de la mi-journée. Salut.